Vous réagissez très nombreux déjà au 33-23, la thématique, la drogue au volant, le cocktail alcool-drogue au volant et ses dangers. Le point de départ, c'est évidemment, vous l'aurez compris, l'accident de Pierre Palmade. Hein, ce week-end, on en a beaucoup parlé dans l'actualité. Il faudrait remettre des douaniers aux frontières comme avant, nous dit Christine au 33-23, et renforcer les contrôles. Il faut pour ça davantage de moyens et surtout juger et punir. Cela fait des années que l'on connaissait, nous dit Frédéric de Jean-Blou, sa dépendance aux stupéfiants. Il est impossible de tenir une fête de 24 heures sans stupéfiants, nous dit-il. Il mérite la prison et une cure de désintoxication. Beaucoup de messages, évidemment, qui vont dans ce sens-là. SMS 33-23, que vous inspire ce drame, mais surtout comment éviter que des personnes sous emprise prennent le volant. Essayons d'être constructifs ce soir, et c'est vrai que c'est pas forcément simple. Est-on assez sévère, selon vous, face à ces consommateurs? Le SMS, et je partage sur antenne vos messages. À vous la parole, 18h21. Une pause, et nos invités, dans un instant.
Belle RTL. Subito, c'est au moins une chance sur trois de gagner.
Happy, go, lucky, gagné. Je réserve un last minute au soleil.
Subito. Happy, go, lucky. Jouez sur loterienationale.be ou dans votre point de vente. Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit?
Eh bien maintenant, chez Aldi, le filet de porc à l'ardennaise de 450 grammes est au prix spécial dit de 6 euros. Une viande bien fraîche, bien belge et à un prix bien bas. Cela va de soi.
Aldi, le choix malin.
Vous informez, vous donnez la parole. C'est le journal complet RTL Info 18h avec Thomas Duberguec.
On reprend les faits pour planter le décor. 4 blessés graves, dont un enfant et une femme enceinte qui a perdu son bébé. C'est vraiment le triste bilan de cet accident de voiture de vendredi soir perpétré par l'humoriste Pierre Palmade en Seine-et-Marne. Nous en avons parlé dans le journal. Je vous encourage à aller sur RTL Info pour les dernières précisions sur le dossier et l'enquête qui... Là, vous l'aurez compris aussi, ne fait que commencer. Mais ce qui est avéré, c'est que Pierre Palmade, 54 ans, était sous l'emprise de stupéfiants, dont la cocaïne, et qu'il était peut-être également ivre. Ce soir, nous évoquons les dangers de la conduite sous influence avec deux invités. Benoît Godard, qui est à mes côtés, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de VIAS, l'Institut pour la Sécurité Routière. Merci d'être avec nous jusque 19h. Depuis nos studios de Liège, Fanny Bétermier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous représentez ce soir Infordrogue. Beaucoup de questions également à vous. Merci d'être là. Benoît Godard, avant d'évoquer les chiffres glaçants de la conduite sous influence, des accidents comme ceux-là, est-ce qu'ils sont fréquents chez nous en Belgique?
Oui, il y en a toutes les semaines. Ici, on en parle parce que c'est une personnalité très connue des médias et du grand public, mais il en arrive très fréquemment. C'est surtout la nuit, évidemment, que la consommation de drogue est la plus importante. Et donc, pour un public un peu plus jeune, ce sont des accidents qui, malheureusement, arrivent très souvent.
Mmh. Il y a dans ces personnes accidentées beaucoup de gens qui prennent des drogues très régulièrement, parce que vous dites la nuit, mais si ça se trouve, ils en prennent parce qu'ils ne peuvent pas se sentir autrement.
Oui, et donc il est question notamment du cannabis. Hein. Faut savoir que quand on analyse l'ensemble des échantillons salivaires des personnes qui étaient positives aux drogues, dans 53% on retrouve des traces de cannabis et dans 15% de la cocaïne. Ensuite vient les amphétamines. Donc ce sont les trois drogues les plus répandues. Et c'est clair que aujourd'hui, il y a quand même un public très jeune qui a pris l'habitude de fumer régulièrement. Et donc ces personnes-là continuent de fumer quand elles obtiennent leur permis de conduire et seront pratiquement toujours positives, puisqu'elles ont une consommation chronique qui fait que lors d'un contrôle, elles seront toujours positives.
Mmh. En l'occurrence, ici, l'humoriste, il cochait un peu toutes les cases, hein, puisque sans doute roulait-il trop vite, il a roulé à l'envers, puisqu'il est passé de l'autre côté. Drogue et peut-être alcool.
Mais ça, ce sont les effets vraiment de la cocaïne, à savoir que c'est une drogue qui stimule, donc qui donne une confiance en soi qu'on n'aurait pas quand on n'en prend pas forcément, et donc concrètement, on a des conducteurs qui accélèrent trop vite dans un rond-point, qui freinent trop tard, qui ne cèdent pas la priorité aux autres conducteurs. C'est typiquement des comportements de quelqu'un qui a pris de la cocaïne, et donc évidemment que ça a un impact considérable sur les capacités de conduite, et ça peut arriver jusqu'à la perte de contrôle du véhicule.
Mmh. Ça doit nous inquiéter vraiment, ce type de comportement?
Oui, c'est inquiétant parce que dans certaines zones de police, on donne maintenant autant de PV pour drogue au volant que pour alcool au volant. Et donc, forcément, quand on connaît les effets d'une drogue comme la cocaïne qui peut multiplier jusqu'à par 10 le risque d'accident, c'est très inquiétant, sachant que le cannabis également s'est fort banalisé. On sent l'odeur du cannabis maintenant un peu partout dans les endroits publics dès qu'il y a une fête. Et donc, c'est quand même préoccupant pour pour l'avenir. Oui.
Mm-hmm. On va reparler bien sûr de tout cela, et notamment de la façon dont la police détecte les personnes qui auraient consommé des stupéfiants. On en parle dans cette émission. Fanny Bettermier, alors bon, vous représentez donc un Fort Drogue. Dans le cadre de votre action auprès d'un Fort Drogue, vous êtes souvent confrontée, entre guillemets, à des accidents de ce type dans lequel il y a eu conduite sous influence de stupéfiants.
Alors, pas à ma connaissance. Nous, notre ligne d'écoute, on a des consommateurs qui nous appellent, voilà, pour toutes sortes de raisons. On a des familles aussi qui nous appellent, qui s'inquiètent pour leurs proches. Mais je peux pas dire en particulier qu'on a des gens qui ont eu un accident de la route et qui s'inquiètent comme ça de leur consommation. Maintenant, ce qu'on observe principalement, c'est qu'en fait, tous les, et pas que nous d'ailleurs, hein, ça commence à être de plus en plus visible dans tous les milieux, c'est que c'est surtout les comportements en fait qui les comportements dangereux qui provoquent des accidents, et la consommation n'est qu'une partie de ce problème. Et quand je dis la consommation, c'est des drogues légales, illégales, l'alcool. Voilà, Monsieur Godard disait à bafouiller en disant que les personnes, c'était typique des personnes qui avaient consommé du café. Voilà, par exemple. Mais en fait, c'est parce que c'est des comportements dangereux qui sont de plus en plus répandus. Mmh. Des comportements, voilà, qui consistent à barrer la route à quelqu'un, rouler trop vite. Voilà, et ça se produit qu'il y ait des consommations de drogue ou pas impliqué dans la conduite, quoi.
Mais comment expliquer, Fanny Bettermier, qu'aujourd'hui le consommateur ne se pose pas la question de savoir s'il ne devrait pas choisir entre se droguer et conduire ? La drogue rend-elle tellement sûr de soi ?
Pas spécialement, mais on se sent parfois un peu surpuissant quand on veut avoir ce genre de comportement. C'est quelque chose qui est très valorisé, d'avoir une bonne conduite, et une bonne conduite peut parfois voilà, vouloir dire rouler trop vite, avoir des comportements un peu plus dangereux, ce qui est absolument antinomique, on est bien d'accord. Mmh. Mais ça se produit en plein jour, en ayant bu du café, la nuit, en ayant pris différents produits. Voilà, il y a des gens qui conduisent en ayant repris leurs médicaments benzodiazépine, qui est leur traitement prescrit par leur médecin, et qui ne devraient absolument pas conduire en les ayant pris. Est-ce que les gens se disent, voilà, se sentent plus braves ou pas forcément. Maintenant, pour l'alcool, on en parlait, enfin, bon, on va en parler avec les tests, la différence entre l'alcool et le cannabis, par exemple, ou les autres drogues, c'est qu'il y a une certaine tolérance pour l'alcool. Et donc, à partir du moment où il y a une certaine tolérance pour un certain seuil d'alcool, est-ce que les gens ne partent pas là-dessus en se disant, oh bah, voilà, j'ai fumé un petit joint, j'ai pris autre chose, est-ce que c'est si grave fondamentalement que si j'ai bu 3 verres de vin?
18h28, vous réagissez en direct au 33-23. Georgette de Profondeville nous dit « Nous espérons que les autres victimes vont s'en sortir sans de graves séquelles. On pense à cette pauvre femme qui a perdu son bébé à cause des déviances des autres. Il faut sévir et punir pour des choses pareilles. » Béatrice souhaiterait que l'humoriste purge une peine de prison avec un suivi pour les addictions. Suivi très important pour elle. Et puis Anne nous dit aussi « Celui qui souhaite boire ou se droguer un maximum, c'est son droit, mais il doit le faire chez lui, dans un endroit sécurisé où il peut passer la nuit, et elle espère aussi qu'il sera puni. » Voilà pour les messages qui arrivent en direct au 33-23. N'hésitez pas à nous dire aussi comment, selon vous, éviter que des personnes sous emprise puissent prendre le volant. Est-on assez sévère face à tous ces consommateurs ? Benoît Godard, les chiffres chez nous, en fait, ils ne cessent d'augmenter de ces conducteurs sous influence.
C'est x4 ces 10 dernières années. Donc en 2021, il y a eu environ 13 500 conducteurs contrôlés pour drogue au volant. Donc c'est multiplié par 4 par rapport à à 10 ans, et le phénomène en fait ne cesse d'augmenter d'année en année. On a sans cesse plus de conducteurs positifs. Alors c'est vrai qu'il y a de plus en plus de contrôles aussi, puisque aujourd'hui, après le test salivaire, vous subissez une analyse salivaire, tandis qu'il y a quelques années, on devait faire venir un médecin qui devait faire une prise de sang ou aller aux urgences avec la personne, donc ça prenait beaucoup plus de temps. Donc l'analyse salivaire permet de faire des contrôles de manière beaucoup plus facile. C'est vrai aussi que le cannabis s'est fort banalisé, et donc ça reste quand même la drogue la plus répandue, et c'est donc cette banalisation et cette hausse du nombre de contrôles qui explique cette forte augmentation du nombre de conducteurs positifs.
Alors effectivement, la moitié pour du cannabis. On va être très clair, Benoît Godard, je fume un joint, je prends le volant après, c'est interdit ?
Bien sûr que c'est interdit, c'est la tolérance zéro. Et il faut savoir que le cannabis va rester dans votre organisme pendant des heures. Et certaines personnes, lors de contrôle, disent aux policiers, moi j'ai fumé, mais hier soir, et ils sont encore positifs le lendemain matin, par exemple. Et donc, ça dépend évidemment des organismes, ça dépend de votre consommation, ça dépend de la quantité de drogue que vous consommez, mais vous pouvez être positif le lendemain de votre après une consommation la veille.
Alors, on est d'accord, on n'empêchera pas les gens qui veulent vraiment se droguer de se droguer, mais est-ce qu'il existe des tests comme les tests alcool avant de prendre le volant, pour s'assurer qu'on n'a plus rien comme trace?
Oui, ça existe. Maintenant, à partir du moment où vous consommez de la drogue, il faut vraiment éviter de contrôler. Là où il y a une certaine tolérance pour l'alcool, puisque la limite est fixée à 0,5 pour 1000, pour la drogue, il n'y en a pas. Et donc, il n'y a pas de raison de faire un test. À partir du moment où vous avez consommé de la drogue, vous serez positif si vous subissez un test dans les heures qui suivent votre consommation.
Alors, pour bien comprendre les choses, Fanny Bettermier, on va se parler franchement ce soir. Dites-moi, quel effet, parce que moi, j'en ai jamais pris, quel effet a la cocaïne sur notre organisme? Dans quel état se sent-on lorsqu'on en prend de la cocaïne?
Eh bien, vous serez peut-être surpris d'apprendre que je n'en ai jamais pris non plus, donc je ne peux pas vous le dire précisément.
Mais ça vous revient, ça vous revient sur la ligne, évidemment, non?
Oui, tout à fait, ouais. Mais... En fait, ça, tous les effets dépendent d'une personne à l'autre, et on peut pas dire à 100% dans 100% des cas, les gens qui prennent tel produit auront tel effet. Ça dépend.
Non, mais les grands effets.
Carrure,
on a dit qu'on était
fréquence.
Sûr de soi.
En tout cas, la cocaïne, c'est plutôt un produit qui donne plus d'énergie, un peu plus d'assurance. Maintenant, encore une fois, c'est pas systématique, et ça dépend à quel moment de la consommation on prend la personne. Ce sera pas le même effet 10 minutes après, une demi-heure après, 3 heures après, etc. Voilà, c'est tout à fait différent du moment où on prend la personne à la consommation. Et si je peux me permettre de revenir par rapport au test qu'on fait pendant les contrôles, c'est que les tests pour la drogue sont positifs même plusieurs jours après la consommation. Donc c'est-à-dire que la personne n'est plus nécessairement sous l'effet de la drogue au moment où elle est contrôlée. On disait la veille au soir au lendemain matin, ça peut même être la semaine avant, et à ce moment-là on comprend bien que la personne n'est plus sous l'influence du produit une semaine après, mais dans certains cas il reste des traces plusieurs jours après, et donc c'est en ça que les tests salivaires en tout cas manquent de précision, d'autant plus par rapport à l'alcool où là on est capable de mesurer précisément avec les tests qu'on connaît aujourd'hui.
Le sentiment d'être invincible, et je lis aussi Benoît Godard quand on prend ce genre de drogue, donc forcément on se dit il peut rien m'arriver, même si je suis au volant et que je roule très vite.
Tout à fait, il peut rien m'arriver, c'est la raison pour laquelle il y a des jugements qui sont faussés. On a l'impression, ah oui je peux passer, alors que si vous n'aviez pas consommé de la cocaïne, vous ne seriez pas passé. On a l'impression qu'on peut rouler trop vite, on ne ralentit pas dans des situations difficiles, et donc c'est une prise de risque inconsidérée qui mène souvent à l'accident.
Le cocktail drogue-alcool multiplierait par 29 le risque d'avoir un accident mortel?
Oui, en tout cas, c'est la combinaison de drogue et d'alcool et ou de médicaments qui est évidemment la plus dangereuse. Ça peut aller jusqu'à x200 le risque d'accident. Ça dépend évidemment de quelle drogue, en quelle quantité. Mais ce qui est important de savoir, c'est que la moitié des personnes qui sont positives aux drogues le sont également à d'autres substances, soit une autre drogue, soit l'alcool. Et donc, évidemment, que ce sont d'autant plus des dangers publics.
18h30, on va marquer une pause dans cette émission, mais vous le savez, hein, vous pouvez intervenir à tout moment par SMS au 33-23. Tout à l'heure, on parlait avec Justine Ponce de l'eau du robinet et un petit conseil d'un auditeur, Fabien Dégueuzé, pour faire disparaître le goût du chlore présent dans l'eau de ville. Il suffit de remplir une bouteille ou une carafe et de la laisser une nuit au frigo sans bouchon. Et le lendemain, cette eau sera excellente. Merci pour votre bon plan. On sort un petit peu du débat, mais c'est pas inintéressant. Donc merci beaucoup à vous, Fabien. On se retrouve dans un petit instant sur Bell RTL.
Vous lancez votre activité comme indépendant? Pour obtenir votre numéro de TVA, passez par notre guichet d'entreprise Xerius. Démarrez rassuré sur Xerius.be.
Qu'est-ce que tu fais, Julie?
Je siphonne la mobilette de Max pour faire le plein de la voiture.
Mais enfin, chérie, comment il va aller à l'école, le petit?
Ah non, mais t'as pas vu le prêt d'essence? Il a des pieds, non? Bon.
Julie, oui, la solution? Rouler en Toyota hybride et consommer en moyenne 25% de carburant en moins.
Oui, d'accord, mais l'hybride, c'est plus cher.
Eh non! Parce que jusque fin février, chez Toyota, l'hybride est au prix de l'essence.
Ah oui?
Avec l'hybride au prix de l'essence, Toyota vous donne le pouvoir de rouler moins cher. Offre réservée à certains modèles. Plus d'infos sur toyota.be. Toyota? pensez-y.
Italiamo. Italiamo.
Ah, c'est l'alarme promo de Lidl. Italiamo. Irritant, hein, ma molto interessante. C'est la semaine italienne chez Lidl. Retrouvez plus d'une centaine de produits italiens à prix bas.
Mamma.
Lidl, pour tous ceux qui comptent.
À votre service, Sandrine Corman.
Ce mardi, jour de Saint-Valentin oblige, je recevrai la sexologue et thérapeute de couple Marie Tapernoux. Nous parlerons avec elle des petites attentions à apporter au quotidien à son couple.
À votre service, c'est tous les jours de 10h à midi sur Bel RTL. RTL Info, c'est votre actu.
Plusieurs messages ce soir au 33-23. Conchettina nous dit « Certaines choses m'interpellent lorsqu'on passe à l'auto-école. Les moniteurs ne remarquent-ils pas que certaines personnes sont sous influence de drogue? Ne faudrait-il pas investiguer dans leur passé concernant ces chauffards qu'on n'attrape jamais? Qui délivre les permis de conduire ?» Bon, on est bien d'accord, même si on détecte quelque chose au moment de l'auto-école, d'abord ça ne veut pas dire qu'il va continuer, et puis s'il n'a rien, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le devenir. Hein, on est d'accord.
Tout à fait, et puis le moniteur ne peut pas imposer un test drogue à son élève. Seul le policier peut le faire.
Évidemment. On lui fait confiance. Les assurances devrait être plus sévère, nous dit Colette, avec les clients qui ont des accidents sous influence.
Elles le sont, il faut le savoir. Donc l'alcool, comme les drogues, comme d'autres choses, sont des circonstances aggravantes. Et donc, ça veut dire quoi? Que la compagnie d'assurance va rembourser en cas de dégâts, en cas d'accident, mais après va se retourner contre le conducteur qui risque de payer les pots cassés, et parfois pendant de nombreuses années. Donc c'est le cas.
Alors bon, on va s'intéresser aussi aux autres drogues, Benoît Godard, et nous avons également Fanny Bettermier qui est avec nous depuis Liège pour Infodrogue. Un auditeur nous dit qu'en est-il du CBD, c'est le cannabidiol, c'est ça?
Oui, c'est ça, c'est le cannabis qui est fumé pour des raisons médicales.
Alors, il est vendu légalement, est-ce qu'il est interdit au volant?
A priori, non, vous n'aurez pas de... Votre contrôle ne peut pas être positif si vous avez fumé du CBD. On n'a d'ailleurs pas eu d'écho de ce genre de contrôle qui aurait été positif. Maintenant, il faut quand même prendre des précautions d'usage et donc ne pas conduire dans les minutes qui suivent le fait d'avoir absorbé ou fumé du CBD, par exemple.
Et donc, ce que vous voulez dire, Benoît Godard, c'est que les tests drogue ne repèrent pas le cannabis?
Non, parce que la quantité de cannabis est trop infime pour être détectée.
Ok. Vos messages au 33-23, n'hésitez pas surtout. Fanny Bettermier, je reviens vers vous. On a parlé du cannabis, on a parlé de la cocaïne. Quelles sont les autres drogues qui peuvent intervenir dans des accidents importants de la route et pour lesquels il y a grand danger?
Toutes. Vraiment, en fait, c'est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, les produits consommés, que ce soit du café, de l'alcool, voilà, de la cocaïne, des médicaments vendus légalement, vraiment tout et n'importe quoi, c'est plus un symptôme, voilà, des risques que les conducteurs prennent de plus en plus et de toute une série de comportements dangereux que les conducteurs adoptent parfois, pas tous évidemment, on le sait bien, mais voilà, c'est toute une série de comportements. Ça peut être voilà, consommer une drogue quelle qu'elle soit, ça peut être voilà, rouler trop vite, faire des dépassements dangereux, ne pas marquer le stop, voilà, c'est tout ça qui est dangereux au volant, c'est toute cette série de comportements.
Une auditrice, Cosette de Aiguezé, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous voulez revenir sur la question des assurances. Selon vous, elles ne sont pas assez sévères avec les personnes qui ont des accidents sous influence?
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, l'assurance peut se retourner contre la personne, mais parfois l'assurance n'est pas tout à fait au courant de l'ensemble des faits lors d'un accident, ou s'ils sont au courant, les gens ont parfois des assurances omnium complet, qui font qu'il y a quand même une intervention de la part de l'assurance. Et là, je ne trouve pas que ce soit très juste. Et de même, si éventuellement l'assurance ne prend pas en charge alors qu'il y a des faits avérés de prise de drogue, c'est la société qui va payer et qui va compenser les frais. Pour quelqu'un qui a commis des frais graves, puisque c'est quand même, entre guillemets, un tueur potentiel en roulant derrière son volant en ayant consommé de la drogue, quoi.
Ça vous tient particulièrement à cœur? Vous avez vécu quelque chose par rapport à ça qui fait que...
Non, pas du tout. Je suis dans le domaine médical, donc j'ai côtoyé de nombreux patients qui ont vécu des drames dont ils sont parfois eux-mêmes responsables et pas parfois victimes. Mais ce que je retrouve parfois également, ce sont des gens qui ont commis un accident et qui après des années ont été effectivement punis même financièrement parfois et autres, qui se transforment même en victimes de la société en disant à cause de la société, je n'ai plus de maison, je n'ai plus rien. Et en fait, les gens parfois ne sont pas suffisamment accompagnés pour pouvoir faire une passerelle, un pont entre ce qu'ils ont fait et devenir eux-mêmes, se transformer en victimes. On entend souvent qu'ils se prennent pour des victimes alors qu'ils devraient plutôt avoir un espèce de mea culpa pour ce qu'ils ont fait, quoi.
Oui, mais si il dit « je me sens mieux quand je prends de la drogue ».
Ah, oui, mais bon, il y a un problème. C'est un suivi médical que la personne doit avoir. Et c'est toute la difficulté, de nouveau, que c'est la personne elle-même qui ne peut faire que cette démarche-là. Son compagnon, son ami, il ne va pas savoir le faire à sa place. C'est lui qui doit faire cette démarche. Et c'est pour ça qu'on arrive souvent trop tard sur un drame, sur un accident, parce que la démarche n'a pas été faite par manque de moyens, ou parce que c'est très difficile de lutter contre les addictions. Hein. C'est très, très difficile.
Mmh. Merci beaucoup pour cette réflexion, Cosette de Aiguezé, qui fait avancer le débat ce soir. Merci à vous. SMS 3323, n'hésitez pas. Benoît Godard, on va parler des contrôles. Les contrôles peuvent se faire, j'imagine, à tout moment. C'est souvent lié au contrôle alcool.
Alors, il y a dans certaines zones, maintenant, chaque fois qu'ils font un contrôle alcool ou chaque fois qu'il y a un accident, par exemple, ils font à la fois souffler dans l'éthylotest et ils procèdent à un contrôle drogue. Ce n'est pas nécessairement dans toutes les zones. La différence entre alcool et drogue, c'est que pour l'alcool, les policiers peuvent arrêter tout le monde et faire souffler tout le monde. Pour les drogues, il faut quand même une présomption de consommation de drogue. Donc, le policier doit regarder une checklist. Et par exemple, si les paupières sont dilatées ou s'il y a une forte odeur de cannabis, ben forcément, il va procéder à un contrôle. Mais c'est trop facile. Fastidieux de faire un contrôle drogue pour toutes les personnes qui sont arrêtées, d'autant que ces contrôles sont quand même plus coûteux que pour l'alcool, puisque pour l'alcool, vous pouvez souffler dans un petit entonnoir que le policier peut réutiliser plusieurs fois. Ici, évidemment, un test salivaire, lorsqu'il est utilisé, on ne peut plus le réutiliser. Et quand il est positif, il y a une analyse qui est faite en laboratoire, donc tout ça, ça a quand même un prix.
Ouais, il y a donc trois étapes, c'est vrai. La fameuse checklist, c'est très subjectif tout de même, non?
C'est très subjectif. Maintenant, les policiers qui sont sur le terrain, il leur faut 3 secondes pour détecter quelqu'un qui a pris des drogues. Hein. On le voit tout de suite, les yeux rougis, les paupières qui sont dilatées, une élocution qui n'est pas top, l'odeur souvent, et donc généralement ça va très vite pour détecter quelqu'un qui a pris des drogues au volant.
Oui, mais alors celui qui a fumé un joint la veille?
Celui qui a fumé un joint la veille peut aussi avoir
ça se voit peut-être plus sur son
visage. Ça se voit moins, certainement, mais ça dépend. Quelqu'un qui va fumer tous les jours, ça va continuer à se voir. Ça dépend évidemment d'un organisme à un autre. Maintenant, les policiers ont l'habitude, ils sont rodés à ce genre de choses et donc ils peuvent détecter facilement les consommateurs chroniques de drogue.
Le test salivaire, on a la réponse tout de suite?
Le test salivaire, on a la réponse dans les quelques minutes qui suivent, oui, tout à fait. Et ensuite, lorsqu'il est positif, le policier va procéder à une analyse salivaire. Et c'est sur la base de cette analyse salivaire que le conducteur sera puni ou non.
Et puis, c'est la prise de sang.
Non, il n'y a pas de prise de sang. Donc, c'est l'analyse salivaire qui termine la procédure. Donc, c'est envoyé au labo et on a les résultats dans quelques jours. Et on peut alors déterminer si le conducteur a pris des drogues, oui ou non.
Alors bon, on l'a dit, hein, le cannabis peut être détecté longtemps après, les amphétamines comme le speed jusque 3 jours, la cocaïne et le crack détectables de 24 à 72 heures après la prise, 3 jours aussi, jusque 3 jours donc, et puis les opiacés comme la morphine et l'héroïne sont encore détectables quelques jours après la prise, même si on n'en subit plus, même si on n'en vit plus les effets, si j'ose dire. Vous faites de la prévention aussi chez un fort drogue, Fanny Bétermier, face à tous ces comportements, j'imagine?
Nous, on intervient beaucoup auprès de professionnels relais, disons. Donc, par exemple, ça peut être des professeurs, des éducateurs, voilà, toutes ces personnes-là qui travaillent potentiellement ou qui vivent, hein, même d'ailleurs, avec des personnes qui consomment des drogues légales ou illégales. Et donc, on fait de la sensibilisation auprès de ces publics-là, en effet. Et voilà, on part souvent de vécu de ces personnes pour essayer de faire avancer les situations qu'ils vivent et les personnes avec lesquelles ils vivent également. Et donc voilà, ça peut éventuellement être dans ce cadre-là que nous travaillons.
Oui. Le meilleur moyen d'arrêter la drogue, alors c'est une question très vaste, hein, Fanny, on est bien d'accord. On commence d'abord par quoi? Par réduire la consommation ou bien on arrête tout?
Déjà, il y a la nécessité de se demander si il faut arrêter complètement la consommation de drogue. Alors, on est bien d'accord, hein, conduire sous influence de quelle qu'elle soit, c'est très mauvais. C'est un danger absolu pour tout le monde et je ne plaide pas pour que tout le monde s'y mette.
On est bien d'accord. Ouais.
Mais il y a aussi la nécessité de se demander est-ce que toute personne qui doit arrêter, qui consomme, doit arrêter sa consommation pour peu qu'elle lui convienne dans le fond et qu'elle ne nuise pas à qui que ce soit d'autre.
Mmh. Qui peut nous aider dans ces cas-là? Vers qui se tourner?
Vers des proches, vers des professionnels médicaux, vers des institutions comme la nôtre éventuellement qui peuvent répondre à des questions. En fait, les consommations, elles répondent à des besoins de plusieurs ordres. Et donc, ce qui est important, en fait, c'est d'entendre les besoins de ces personnes et de voir si elles peuvent être remplies d'une autre manière ou pas. Et dans certains cas, la consommation sert à remplir ce besoin. Et si le besoin est rempli ailleurs, il y aura peut-être plus besoin de la consommation. Mais ça peut se faire avec des amis, avec des institutions, avec des professionnels médicaux. Ça peut prendre beaucoup de formes en tout cas.
En tout cas, pour répondre à un auditeur, on n'a jamais dit qu'on se sentait mieux quand on prenait de la drogue. On a dit que certains estiment qu'ils se sentent mieux et qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Mais évidemment, le mieux, vous venez d'en parler, Fanny Bettermi, c'est bien sûr de tout arrêter. SMS 3323, n'hésitez pas à intervenir. On dit souvent, Benoît Godard, que l'alcool n'est pas ingéré pareil si on est de forte constitution ou tout petit. Est-ce que pour la drogue, c'est pareil?
Oui, c'est pareil, selon que vous soyez un consommateur chronique ou pas. La quantité de drogue, la qualité aussi de certaines drogues, souvent on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et, apparemment, le cannabis d'aujourd'hui n'est pas celui qu'on consommait il y a quelques années. Et donc tout cela, ça peut influer sur le comportement et sur les capacités de conduite, tout à fait.
Mmh. On peut demander son quart d'heure quand on est arrêté pour la drogue?
Non, pas pour la drogue. Pour l'alcool, oui, mais pas pour la drogue.
De toute façon, ça ne change rien.
Ça ne changera rien. Ça reste plusieurs heures dans l'organisme.
Oui. Alors, qu'est-ce que l'on risque, Benoît Godard? Parce que j'imagine que là, ça peut monter. Hein.
Mais les sanctions sont très sévères. Hein. On parle d'une amende de 1 600 euros minimum, de déchéance du droit de conduire qui peuvent aller jusqu'à 5 ans, de fortes amendes, donc je l'ai dit, et ça peut aller même jusqu'à une peine d'emprisonnement pour les personnes qui récidivent. Donc les sanctions sont déjà aujourd'hui sévères, mais a priori, ça n'a pas d'effet dissuasif, et donc c'est plutôt le risque de se faire contrôler qui a une influence sur le comportement des conducteurs. S'ils savent qu'à tout moment de leur sortie, ils risquent de se faire contrôler, là, ils vont adapter leur comportement. Mais ici, le montant qui est quand même très dissuasif, de 1 600 euros, n'a pas d'effet, puisqu'on constate une augmentation du nombre de personnes qui sont sous l'influence de drogue.
Mmh. Vous avez dit 5 ans pour le retrait de permis. Il peut être définitif en cas de récidive?
Il peut être définitif dans les cas les plus graves, évidemment.
Mmh. 18h47, on marque une dernière pause et on revient jusque 19h. N'hésitez pas. 33-23, cette émission est la vôtre.
Bienvenue chez Cuisine Dovi.
Dovi lance de nouvelles tendances. Venez nous voir pour les découvrir pendant le Festival de la Cuisine de Dovi. Bénéficiez de nos conditions salon. Un quart de votre cuisine gratuit et vous pouvez même gagner votre cuisine. Cuisine
Dovi. Nous créons votre cuisine en Belgique.
Dis Aldi, c'est quoi ton spécial dit?
Eh bien maintenant, chez Aldi, les kiwis verts esprits 100% frais sont au prix spécial dit de 40 centimes pièce. Riche en vitamine C, le kiwi vert est votre partenaire idéal pour l'hiver.
Aldi, le choix malin.
C'est une découverte, Bel RTL. Roberto Bellarossa, à zéro.
La vie est courte, les jours sont comptés. J'ai bien le droit d'oser rêver. On est juste de passage, je profite du paysage, je reprends tout à zéro. Allez viens, redescends pour aller plus haut, vivre le pire pour que ça soit plus beau. Allez viens, redescends pour aller plus haut, parfois il faut reprendre à zéro. Revenir de loin, arrêter le temps. Précédent. On est juste de passage, je profite du paysage, je reprends tout à zéro. Allez viens, redescends pour aller plus haut, vivre le pire pour que ça soit plus beau. Allez viens, redescends pour aller plus haut, parfois
jusqu'à 19h, RTL Info, Thomas de Bergueic.
Trois jours après l'accident provoqué par l'humoriste Pierre Palmade, nous avions envie de revenir ce soir sur les méfaits de la drogue au volant, en élargissant bien sûr, avec deux experts ce soir. Benoît Godard, qui est le porte-parole de l'Institut pour la Sécurité Routière, pour FIAS, et Fanny Bétermier, responsable d'Infor Drogue, qui est avec nous ce soir. Merci encore à tous les deux d'être présents. Nous allons entendre un auditeur, c'est Didier de Bruxelles. Bonsoir Didier.
Oui, bonsoir.
Alors bon, la cocaïne, c'est quelque chose que vous connaissez?
Malheureusement, oui. Enfin, que je connaissais, oui, malheureusement. Oui, c'est comment est-ce qu'on entre dedans? Ben d'abord, c'est récréatif. Mm-hmm. C'est violent de dire, c'est violent d'utiliser le terme récréatif pour quelque chose de dur. Et ensuite, c'était surtout au niveau du travail pour essayer de tenir le coup. On réfléchit beaucoup plus rapidement aussi. Ça excite les neurones. C'est bien pendant un temps. Puis on réfléchit moins vite, on en reprend, on réfléchit de nouveau plus vite, et puis c'est un cercle vicieux, et voilà, et quelque part on a du mal à s'en sortir, jusqu'au jour où on se rend compte qu'on a énormément de choses à perdre, et je parle même pas de l'aspect financier ici, je parle plutôt de l'aspect familial, oui. Et là il y a quand même une prise de conscience qui fait que j'ai tout arrêté du jour au lendemain, parce que je m'y suis rendu compte que j'avais énormément à perdre, et in fine j'aurais pu y perdre de la vie également. Mmh.
Vous avez réussi, Didier, à compenser ça par quelque chose d'autre, finalement?
Beaucoup de volonté et beaucoup de sport. Beaucoup de sport. Mmh. Et je sais que certains médecins disent qu'on n'est jamais sevré, parce que c'est un petit peu comme l'alcool. Hein. Si on devait retoucher à l'alcool, si on est alcoolique, on devait retoucher à l'alcool, on est reparti. Ça fait maintenant 7 ans que je n'y touche plus, et je me suis promis de ne plus jamais y toucher parce que je sais ce que j'ai à perdre. Mmh.
Didier de Bruxelles, merci beaucoup pour votre témoignage. Tiens, vous avez déjà roulé sous influence, entre guillemets, ça vous est arrivé?
Oui. Et quand j'entends tout ça, je me dis que c'est vrai. On prend vraiment conscience quand on est sobre, mais encore plus quand une certaine période est passée, on se rend vraiment compte de la bêtise. Enfin, si je pèse mes mots là, de la bêtise et des bêtises qu'on a pu faire, et entre autres prendre le volant pour rentrer à la maison. Et voilà quoi, donc c'est vraiment, voilà, je suis pas fier du tout de ce que j'ai fait.
Mais vous avez le courage d'en parler.
Ouais, parce que ça fait du bien de pouvoir en parler et de pouvoir un petit peu pouvoir parler, peut-être aider certaines personnes grâce à ça.
Mmh. Eh bien, merci beaucoup en tout cas Didier d'être intervenu sur cette antenne, un témoignage très éclairant et je vous remercie. SMS 3323, Anne nous demande, Benoît Godard, question pour vous, si le taux d'alcool dans le sang imposé au conducteur l'est aussi pour les piétons parce qu'il est asthmatique, doit-elle le signaler en cas de contrôle policier?
Non, maintenant, un piéton qui est impliqué dans un accident pourrait lui aussi subir un contrôle alcool pour déterminer les responsabilités, notamment lors de l'accident. Mais de manière générale, le piéton n'est pas, s'il n'y a pas d'accident, ne sera pas soumis à un éthylotest.
Patrick nous dit la drogue est interdite, alors pourquoi ne pas poursuivre systématiquement toutes les personnes prises sous influence? Lorsque l'on suit certains programmes, on comprend qu'il y a parfois une certaine tolérance. Il y a une tolérance?
Dans la consommation, je pense que pour le cannabis, certains pensent que c'est autorisé. Il suffit d'aller dans n'importe quel événement festif, un stade de foot, un concert, pour ressentir l'odeur du cannabis. Donc c'est clair que c'est une drogue qui s'est largement banalisée. Même sur le quai d'une gare, le matin, parfois, quand il y a des étudiants, ça sent le cannabis. Donc c'est un peu ça le malheur, c'est que cette drogue s'est tellement banalisée que forcément ces gens qui en prennent régulièrement vont continuer à en prendre une fois qu'ils auront leur permis et vont donc rouler sous l'influence de la drogue. Et c'est ce qui fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont prendre pour drogue au volant et deux, qu'il y a des accidents qui arrivent chaque semaine.
Mmh. Fanny Bétermier, on en est où dans la légalisation? On en reparle souvent, mais on a l'impression que la Belgique n'est pas prête à quoi que ce soit.
Non, en effet, et c'est vrai que c'est une réflexion qu'on se fait souvent dans notre secteur, c'est que il y a certains endroits, même on sait qu'on a des alliés au niveau politique, certains en tout cas qui sont prêts à entendre que la pénalisation, la criminalisation des drogues ne fonctionne pas, puisque comme on le voit, c'est valable pour la conduite, mais c'est aussi valable pour la loi. Ça fait 100 ans que toutes les drogues illégales sont interdites. Évidemment, oui. ça apporte son nom, sont interdites en Belgique et c'est pas pour autant qu'on en a fini avec les drogues et on a beau mettre plus de répression, de plus en plus l'accent dessus, ça ne change rien ni au niveau du trafic ni au niveau de la consommation individuelle. Donc on est en lieu de se demander si c'est un système qui marche. La réponse est non. Et pourtant, à chaque fois, là je vais faire le lien avec ce qui se passe récemment à Anvers, à chaque fois qu'il y a un souci de sécurité public lié aux drogues, on en revient à plus de répression. Et donc, ce qui est assez antinomique avec une idée de décriminalisation des drogues. Et voilà, donc on passe souvent à chaque fois qu'il y a un petit problème, un petit ou un gros problème, évidemment, je ne minimise pas les problèmes de sécurité, mais à chaque fois on passe de lutter contre les trafics pour diminuer le nombre de consommateurs, et dès qu'il y a un problème c'est lutter contre les consommateurs pour influer sur le trafic. Et dans les deux sens, en tout cas avec plus de répression, ça ne marche pas.
Les produits qui remplacent la drogue pour s'en sortir, Fanny Bettermier, je pense à la méthadone, au Subutex, ça reste tout de même de la drogue.
Ça reste un produit que les gens prennent,
de substitution.
De substitution, tout à fait. Mais il y a des arrêts de consommation de drogue illégale qui se passent avec des produits de substitution. Et il y a des arrêts qui se passent avec des comportements de substitution. Disons, il y a des gens qui vont, comme disait le monsieur précédemment, faire du sport, faire beaucoup de sport à la place, et ça va devenir un nouveau but entre guillemets. Ça peut être beaucoup de choses, ça peut être on dit souvent arrêter le tabac fait grossir. C'est pas tellement qu'arrêter le tabac fait grossir, c'est qu'on remplace souvent l'arrêt de la cigarette par du grignotage, et donc voilà, c'est un peu tous ces équivalents qui font que quand on arrête un comportement, on en commence souvent un autre, on ne laisse pas le vide. Alors ça peut être un comportement que la société juge constructive, comme faire de la peinture, commencer le jardinage, et puis ça peut être ça peut bien être sûr. Toutes sortes de choses, évidemment.
Bien sûr. Benoît Godard, les tests pour détecter les drogues ne détectent pas les produits de substitution.
Non, tout à fait.
Donc on peut rouler sous influence du Subutex ou de la méthadone.
Et vous ne serez pas détecté. Maintenant, il y a quand même un article de loi qui dit que vous ne pouvez pas rouler dans un état apparent analogue à celui de la conduite sous l'influence d'alcool. Donc, si vous avez quand même des signes qui montrent que vous n'êtes pas dans votre état normal, vous pouvez être verbalisé sur la base de cet article-là. Maintenant, le gros problème aussi dans la circulation actuellement, c'est le gaz hilarant que l'on peut pas non plus détecter par le test salivaire. Certes, il a des effets assez temporaires, mais néanmoins, pendant les minutes qui suivent sa respiration, forcément le conducteur ne peut pas être dans son état normal et donc aura un impact négatif sur les capacités de conduite. Et donc nous, on demande purement et simplement l'interdiction de la vente de ce produit.
Alors puisqu'on parle des assuétudes, un auditeur, Alex, nous dit on peut être accro à son GSM aussi.
On peut être accro à son GSM, c'est également un problème de sécurité routière, et c'est assez significatif puisque et le GSM au volant et les drogues sont les deux problèmes majeurs pour l'instant dans la circulation. Donc on était loin de se douter il y a 20 ans qu'on ferait des actions de sensibilisation et des contrôles contre le GSM au volant. On était loin de se douter que la problématique des drogues au volant prendrait tant d'ampleur, et ce sont vraiment des phénomènes qui, contrairement à d'autres, eux ici sont vraiment en pleine expansion.
Il nous reste une minute, je voudrais qu'on parle, Benoît Godard, de ces formations relatives aux drogues que donne Vias. Ça fonctionne comment?
Mais donc c'est réparti en 4 fois, donc il y a une journée entière notamment, il y a un week-end, une soirée. Le but c'est de faire comprendre aux conducteurs que ce qu'ils font n'est pas c'est pas quelque chose de banal. Prendre des drogues et prendre le volant ensuite, ça peut être très dangereux. Donc on leur donne des exemples concrets sur les distances d'arrêt quand consommé de la drogue par rapport à quand on est clean, sur leur comportement, donc vraiment des exemples pratiques pour leur montrer que s'ils prennent de la drogue, en tout cas, ils doivent éviter de prendre le volant, certainement.
Eh bien, merci d'être intervenu. Benoît Godard, porte-parole de l'Institut pour la sécurité routière, et Fanny Bettermier pour Infodrogue. Demain, nous serons le 14 février. Tiens, 14 février, Saint-Valentin. Mais nous aurons forcément une thématique en rapport avec le 14 février. Soyez au rendez-vous demain, et j'ai hâte de vous retrouver dès 18h.